Ok, c'est parti. Alors, voilà. Allez, Krishna.
Allez, Krishna.
Virginie, vous êtes sur l'île, s'il te plaît, page
D'accord.
153, ligne 31.
Oui, c'est Srila Prabhupada
Ouais, qui parle.
qui parle. Prabhupada. Imejana pada shrida supak voshya di viruda. Supak voshya di viruda. Vanadri nadi undamvanto i idante tava vikshitai. Srimad Bhagavatam, chapitre 1, chant 1, chapitre 8, verset 40. Voici une très belle description de la manière dont nous pouvons être heureux matériellement parlant. Ce sont toutes les descriptions du bonheur matériel. Shrida, des villes et des villages très florissants. Comment s'épanouissent-ils? Maintenant, Shupak Voshyadi Viruda, les herbes et les plantes, les arbres et les lianes sont tous luxurieusement cultivés et répondent suffisamment aux besoins de l'être humain. Chaque plante et chaque plante grimpante est utile à l'être humain. Nous ne savons pas comment les utiliser et les connaisseurs en la matière, eux, recueillent tant d'oshyadis, herbes médicinales, vanoshyadi, lata, loke, jayate, paramam, itam. Nous négligeons ces herbes et ces légumes, mais parce que nous ne savons pas comment les utiliser, nous devons payer tant de factures des médecins. Mais en fait, il existe tout ce qu'il faut. L'arrangement de Krishna est très complet. Purnam idam, purnam ada, purnat, purnam udasyate. Ishopanishad, invocation. Krishna nous a tout donné en entier. Rien ne manque. Et ce, même si nous sommes venus dans ce monde matériel pour subir quelques tribulations à cause de notre attitude rebelle envers Krishna. Krishna, nous sommes faits pour servir Krishna. Mais nous nous sommes rebellés. Parce que pourquoi devrais-je servir Krishna? Je vais servir mes sens. Je resterai indépendant sans Krishna. Telle est notre folie. Ce n'est pas possible. Nous avons déjà discuté du fait que sans Krishna, il n'est pas question de bonheur. Il n'est pas question de bonheur. C'est notre... voilà, qui relève de l'ignorance. Krishna boli sei jiva anadi bahirmukta ata eva maya taredeya samsara dukkha. Chamritam vritam Chaitanya chamritam vrita madhya 20.117. Il y a quelque chose comme notre seule faute est d'avoir oublié Krishna et d'en être venu à jouir de ce monde. La jouissance matérielle signifie la gratification des sens. C'est tout. C'est le monde matériel. Et dans le monde spirituel, il n'y a pas de gratification des sens centrée sur soi, mais seulement des activités visant à satisfaire Krishna. C'est cela le monde spirituel. Ce qu'on appelle le monde matériel peut être converti en monde spirituel par le biais de notre conscience de Krishna, laquelle fait en sorte que tout doit être utilisé pour le plaisir de Krishna. Tel est le monde spirituel. Sinon, c'est le monde matériel. En ce qui concerne comprendre Krishna, cela signifie comprendre notre relation avec lui. Il n'y a pas deux genres d'attitude par rapport à lui. Dans un sens, oui, rébellion ou attitude de service inconditionnel. Mais l'une relève d'une illusion temporaire qui peut durer indéfiniment, longtemps, et l'autre qui peut durer pour l'éternité, qui se doit d'être ravivée pour le bien de tout être vivant. La classe continue ci-dessous. Srila Prabhupada. Dans un sens supérieur, il n'y a pas de monde matériel du tout. Sarvam, Kalvidam Brahma, Chandogya Upanishad 3.14.1. Tout a rapport à Krishna et l'énergie de Krishna. Ainsi, l'énergie de Krishna n'est pas différente de Krishna, tout comme le soleil n'est pas différent du soleil. Bien que le soleil soit à des millions et des millions de kilomètres, nous pouvons quand même sentir ce qu'est le soleil en ressentant l'énergie du soleil sous forme de son rayonnement. Nous pouvons comprendre que le soleil est constitué d'une chaleur et d'une lumière complète. Même si nous ne pouvons pas aller au soleil, nous pouvons le comprendre grâce au rayonnement du soleil. De même, nous pouvons comprendre Krishna par ses différentes énergies. Parashya Shaktir Vividaiva Shuyate Chaitanya Chamrita Vrita Madhya 13.65 teneur et portée. Il possède de multiples énergies. Ainsi, ces plantes et lianes, elles aussi sont produites à partir de l'énergie de Krishna. Et nous en profitons. Donc, si nous voulons notre bien-être, ces choses sont nécessaires. Quoi donc? Imme jana pada shri shvrida jana pada. Ville et village, nous en avons besoin. Parce que nous sommes des êtres humains, nous ne pouvons pas vivre dans la forêt. Certains êtres humains non civilisés vivent naturellement dans la forêt parce qu'ils ne sont pas civilisés. Mais les hommes civilisés, eux, ont besoin de belles villes, de cités remplies de jardins, de parcs, de belles routes, de chemins et de beaux bâtiments. Ils sont tous décrits dans le Srimad Bhagavatam. En ce qui a trait aux villes de Dvaraka et de Mathura à l'époque. Il existe encore quelques exemples à Mathura, car vous constaterez qu'à l'extérieur de la ville, il y a de nombreux jardins. Les jardins. Autrefois, les invités, les rois et les grandes personnalités, ces maisons-jardins leur étaient réservées. Nous obtenons cette information dans de nombreux textes de la littérature védique. Tout naturellement, pardon.
Ouais. Alors, Hare Krishna, bienvenue à Ananda.
Hare Krishna,
Hare
désolé pour le
Krishna.
retard.
Ah, pas de problème. Alors, on était à la page 155 et on vient de finir à la ligne 10 ou 11, là. Alors, Om Gyanatimirandasya Ranjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Prabhupada Ki Jai.
Jai.
Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires?
Moi, je voudrais juste que tu nous éclaires sur cette histoire de personne qui vit dans la forêt et qui est pas civilisée, en fait. Qu'est-ce qu'il entend par là, Srila Prabhupada? Qu'est-ce qu'il est dit par là? Parce que juste pour que j'aille au fond de ma pensée, ça sera peut-être plus facile pour toi. C'est que ces gens-là, souvent, ils sont dénués de, justement, de tout ce qui rend la société moderne dépendante complètement du plaisir des sens. Justement, ils sont retirés de tout, ils vivent avec peu de choses, ils se contentent de peu de choses. Donc voilà, je voudrais que tu m'éclaires un petit peu sur cette histoire d'homme civilisé, en fait.
On peut répondre par le contraire en disant justement, c'est quoi non civilisé par opposé à civilisé. Alors, non civilisé, il y a des tribus. Je connais pas grand-chose sur le sujet, mais pour ce que je sais un petit peu, il y a beaucoup de nudité, par exemple. Ils ont leurs coutumes. Et il y en a qui sont, comment on dit ça, cannibales. Ça, définitivement, le cannibalisme n'est pas un trait de civilisation. Et la civilisation védique, en particulier, raison de plus, la civilisation védique, accorde une grande importance à la compréhension de ce à quoi la vie humaine doit être dédiée, c'est-à-dire la réalisation spirituelle. Et, comme Prabhupada explique, dans le Srimad Bhagavatam, une certaine teneur est portée que la culture védique ou la société védique est basée sur la réalisation spirituelle. Alors, Prabhupada explique aussi dans ses enseignements qu'une société qui n'est axée seulement sur les activités manger, dormir, s'accoupler, se défendre, c'est pas mieux qu'une société animale. Alors, société animale, puis être humain qui est pas civilisé, c'est pas très loin l'un de l'autre. Quoique, Prabhupada explique aussi, dans le Srimad Bhagavatam, une teneur reportée, que même chez les sociétés non civilisées, ils ont un concept d'une divinité suprême ou d'un dieu qui contrôle tout. Il y a un certain concept de Dieu, parce que ça fait tout être vivant une relation avec Dieu. Alors, peu importe où est-ce qu'il va se trouver dans la condition, d'une façon ou d'une autre, pas tout le monde, mais il y a certains êtres qui sont plus spirituels que d'autres dans une société. Alors, dans ce qui est appelé une société non civilisée, ben, il va y avoir, par exemple, ce qu'ils appellent un grand sorcier pour guérir ou un prêtre quelconque qui a une fonction dans la société. Ils vont accorder un respect aux ancêtres ou aux personnes les plus âgées ou les plus seniors dans leur société. Ils auront un droit de parler dans le sens de dire qu'est-ce qui est bon, pas bon, qu'est-ce qu'ils recommandent, tout ça c'est, si vous voulez, retraçable dans les descriptions de sociétés. Par exemple, amérindienne en Amérique. Alors, pour les Européens ou pour les Nord-Américains, ce qui apparaît comme des sociétés non civilisées, ça pourrait être surprenant de faire la comparaison avec leurs propres normes de société qu'ils disent non civilisées. Comme il y a vraiment pas longtemps, il y a quelques jours de ça, j'entendais un musulman qui expliquait comment ils font pour faire tuer les animaux pour que ça soit de la viande halal. Ils ont une façon de faire ça. Et ils disaient justement que ce n'est pas comme dans les abattoirs. Alors, qui est le plus civilisé? Les gens qui soutiennent les abattoirs en consommant le produit des abattoirs ou d'autres personnes qui ont certains principes de civilisation très ancienne et qui ne vont pas dans ce chemin-là. Alors, comme par exemple dans la culture védique, Prabhupada explique, il y a des prescriptions pour des gens qui veulent absolument, mais ça, il va toujours en avoir, des gens qui veulent absolument manger de la viande. La civilisation védique, ce n'est pas une civilisation qui exclut des personnes à l'exclusivité de seulement ceux qui sont dans la vertu, comme par exemple les brahmanas, les dévots de Krishna, etc. Non, il y a des directives pour tout le monde selon la vertu, la passion et l'ignorance. Alors, dans la culture védique, pour quelqu'un qui veut manger la viande, premièrement, ce n'est pas tous les jours. Ce n'est pas en quantité industrielle sans restriction. Ça, c'est pas sanctionné par la culture védique. Mais la culture védique veut que si quelqu'un veut absolument manger de la viande, c'est une fois par mois. Le jour, ça s'est arrangé avec la lune, si je ne m'abuse. Et là, il faut que la personne prononce un mantra avant de tuer l'animal. Et le mantra veut que ça dit, maintenant je te tue, mais toi dans ta prochaine vie, tu pourras me tuer et me manger aussi. Et ça, c'est pour amener la personne à réaliser ce qu'elle est en train de faire, ça va lui revenir. Et si elle a un petit peu de cocologie dans le cerveau, elle pourra conclure que, un, ça fait mal de tuer un animal, puis il va m'arriver le même sort dans le futur. Alors, où est mon intérêt? Alors, ça, c'est la culture védique. Alors, la culture védique, il y a beaucoup de manières, ultimement, à amener une personne à être consciente de Krishna. Alors, comme par exemple, Prabhupada a expliqué aussi, dans la culture védique, le soir, quand la journée est finie, il y aura, par exemple, des pièces de théâtre où ce sont les divertissements de Krishna ou d'autres incarnations de Krishna, comme le Seigneur Ramachandra, qui sont joués. Et de cette façon-là, à l'époque, une époque plus védique qu'aujourd'hui, les sudras qui ne sont pas permis ou qui n'ont pas les facilités de lire. C'est comme ça qu'ils apprennent les divertissements de Dieu, la personne suprême, en regardant ces pièces de théâtre-là. Ça s'est expliqué comme ça par Prabhupada dans le Srimad Bhagavatam. Alors, la culture védique, ultimement, c'est pour apprendre à connaître Krishna et à devenir un dévot de Krishna et comprendre le but de la vie, qui est de retourner à la maison, retourner auprès de Krishna dans son royaume pour l'éternité. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui.
Dans le côté de manger de la viande, il y a des cultures que c'est un peu de l'hypocrisie, qu'est-ce qu'ils font pour manger de la viande. Juste pour le côté kosher, je sais pas comment on le dit, là.
Cachère.
Kasher, les
Ouais.
autres, ils disent, dans la Bible, c'est marqué, faut pas manger rien avec le sang. Alors, le kosher, qu'est-ce que c'est? Ils font dégoûter le sang de l'animal, mais ils mangent l'animal. C'est un peu hypocrite. C'est aller à contre trouver des loopholes, je sais pas comment on dit, là, des petits coins, là.
Ouais, mais justement, Prabhupada, j'ai entendu Prabhupada faire un commentaire là-dessus, spécifiquement là-dessus. Puis, il disait justement, si le sang de l'animal doit être égoutté, comment peux-tu égoutter sans qu'il reste la moindre goutte de sang dans le corps, le cadavre finalement? C'est impossible. Alors, si quelqu'un a un petit peu de cocologie, qu'il est sincère, il devrait réfléchir et arriver à la conclusion que ça, c'est comme un jeu de mots. C'est juste une excuse pour arriver à quelque chose qui, dans le fond, ne devrait pas arriver. C'est aussi simple que ça. Disons, il n'y a rien qui me vient à l'esprit en ce moment. Attends une minute. On va donner un autre exemple. Si on est pour parler d'hypocrisie, on va en trouver un autre. Alors, il y a une offense au Saint-Nom. sixième offense au Saint-Nom, qui veut que commettre des activités pécheresses sciemment, même si on chante Hare Krishna. Alors, l'offense, par exemple, si je brise les quatre principes, je chante Hare Krishna, et je pense, ben, le Mahamantra va tout effacer ça. Parce que c'est dit, le Mahamantra, quand tu chantes Hare Krishna, ça purifie de plus de péchés que tu es capable d'en commettre dans ta vie. Alors, quelqu'un peut penser, ben, je peux boire, je peux manger n'importe quoi, puis je vais chanter Hare Krishna, puis ça va être correct. Ça, c'est de l'hypocrisie. Et c'est vraiment se leurrer soi-même, parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est une offense. Alors, si quelqu'un fait des offenses, il ne peut pas atteindre le but de chanter Hare Krishna, développer l'amour de Dieu et retourner à Krishna. Alors, Krishna n'est pas dupe. Personne ne peut tromper Krishna. Alors, il faut être sincère, il faut éviter les offenses. Et comme c'est dit dans le chant des saints noms, le stage débutant, c'est que c'est un chant avec offense. Et après, le deuxième stage, c'est un stade sans offense. Et le troisième stage, c'est un stage chanté avec pureté, le pur chant des saints noms. Et comme c'est dit aussi, avec nos sens matériels imparfaits, on ne peut pas savourer le Saint-Nom, le vrai goût du Saint-Nom. Alors, on chante du mieux qu'on peut, on essaie d'éviter les offenses, puis on s'en remet à Krishna pour sa grâce, pour nous faire avancer spirituellement par le chant des Saints-Noms. Ça répond à la question?
Oui. J'avais une autre question.
Oui, allez-y.
C'est le côté civilisé une nation civilisée, c'est pas nécessairement sur l'avancement matériel de technologie, d'argent, n'importe quoi. C'est plus par l'amour qu'ils portent pour déjà, on dit ceux qui vivent dans la forêt sont moins civilisés que ceux qui sont en ville. Mais en ville, des fois, sont pires. C'est sont plus démoniaques que ceux dans une forêt qui ont beaucoup de respect pour la nature, qui s'identifient, ils ont de l'amour pour les arbres, les animaux, tout ça. Tandis que ceux en ville, des fois, c'est comme ces milliardaires qui boivent du sang d'enfant pour rester jeunes, l'androchrome, je sais pas comment ils appellent ça, là. Puis ils mangent aussi des cadavres, des humains, c'est des cannibalistes.
Ouais.
Puis ils ont des milliards. Tu vois, c'est pas le côté financier, alors qu'une civilisation qu'on peut voir, c'est évoluer.
Ouais. Il y a un autre exemple qu'on peut donner, justement pour venir à ce que tu viens de dire. Dans la culture védique, un brahmana va se contenter de vivre. Et même dans le temps de Seigneur Chaitanya, qui remonte à 500 ans, il y avait des exemples de ça, de brahmana qui se contentent de vivre dans une hutte seulement. Alors, par comparaison, disons, au temps moderne que nous connaissons, nous, on va penser, il vit dans une hutte. Pauvre lui ou pauvre elle. Et en Afrique, c'est comme, il y en a comme ça aussi. Mais tu ne sais pas comment ces gens-là apprécient la vie. Qu'est-ce qu'ils pensent? Il y a aussi quelles sont les valeurs de ces personnes-là? Alors, on peut pas juger juste sur le mode d'habitation. Et comme Prabhupada dit, c'est un pays qui a été créé pour la réalisation spirituelle. Alors, comme par exemple, tu peux avoir presque pas de vêtements, si c'est avoir presque rien du tout sur le corps. Allez, comme c'est dit, les Goswamis, Il dormait en dessous d'un arbre différent chaque soir. Mais Prabhupada ajoute une nuance. Il dit, oui, mais il faut comprendre que chaque arbre, c'était pas un arbre ordinaire. C'était des arbres à souhait à Vrindavan. Alors, ils avaient toutes les nécessités de la vie. Mais ils avaient pas besoin de grand-chose. Alors, la vie spirituelle, c'est être riche en pensée de Krishna, en philosophie, en conscience de Krishna. Et matériellement parlant, c'est pas... Mettons, tu vois à Vrindavan, la dernière fois que je suis allé à Vrindavan, wow! Des fois, tu regardes les rues ou des choses qui ne réparent pas. Et tu te dis, comment ça se fait? Ils réparent pas ça, eux autres. Ben, ils ont des raisons de pas réparer, puis c'est le lieu saint de Vrindavan. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Prabhu, on te voit pas. Je sais pas si c'est juste moi, là.
Ah, elle vient d'arriver.
J'allais le dire aussi, mais je savais pas si c'était volontaire ou...
Non, c'est pas volontaire, là, cette fois-ci. Ah là
non.
Là.
Non, mais en fait, juste pour aller dans le sens de ce que vous échangez, c'est que ouais. Ce qu'on... Beaucoup de gens considèrent, justement, comme disait Madhavananda, c'est que beaucoup de gens considèrent que la société, là, où on évolue, entre guillemets, société occidentale, c'est une société civilisée. Mais on sait très bien que c'est pas vrai, quoi, en fait. C'est une société de sauvages, pour moi.
Oui, ils sont pires que les animaux. Ils sont
Ah,
pires.
Mais bien plus pire que les animaux, parce que les animaux ne sont pas aussi tordus dans leur mental. Les animaux, ils sont bruts. Ils fonctionnent à l'instinct, tandis que l'humain, lui, il a la possibilité d'utiliser ça pour pouvoir vraiment encore plus nuire à l'autre. Et puis nuire au développement spirituel de la société. Parce que c'est ça, en fait, aujourd'hui. Il y a deux mondes, hein. Il y a le monde spirituel qui essaie de prendre sa place, et puis il y a surtout le monde matérialiste qui essaie de rendre tout le monde matérialiste, en fait, hein.
Ouais, tout le monde dans le même bateau.
Exactement, parce que pour en avoir discuté avec des catholiques, ah ben non, mais c'est écrit dans la Bible, tue et mange, alors moi j'ai le droit, quoi. Dieu, il a dit tue et mange, donc je commets pas de péché quand je tue un animal pour le manger. Ok. Mais moi, je vais plus loin, je dis tue et mange, oui, mais regarde pourquoi il a dit ça, c'est parce qu'en fait, vous n'arriviez pas à maîtriser vos sens, les peuples de cette époque-là, et donc pour pouvoir, dans certaines conditions, mais après, on retire tout de sa substance et on prend juste quelque chose et on dit aux gens, voilà, c'est ça maintenant, et c'est pas autre chose. Donc ça peut pas fonctionner, hein.
Exactement. Alors là, je m'excuse pour la caméra. C'est la première fois qu'elle me fait ça, mais je vais pas oser changer quoi que ce soit parce que peut-être faudrait reconnecter. Alors, on se parle, c'est tout. Alors, voilà. Je sais pas pourquoi qu'elle fait ça aujourd'hui. Bon, anyway. Ah, ok, c'est vrai, tu peux pas voir le texte à ce moment-là. Non, oui, vous pouvez
Mais
voir le
si,
texte.
le texte, on le voit.
Oui,
Oui.
le texte, vous pouvez le voir. C'est juste ma binette.
Heureusement, t'entends.
Ouais, d'accord. Alors, dans la société d'aujourd'hui, l'être humain est considéré comme une bête de consommation. Il n'y a pas de valeur spirituelle reconnue pour les êtres humains en général. Disons, tu regardes la télévision d'État, ici c'est Radio-Canada. Où est la place de la religion là-dedans? Pratiquement parlant, il n'y en a pas. S'il y a une personnalité comme par exemple l'archevêque de Montréal meurt, alors là, il va peut-être faire quelque chose pour couvrir le service de l'archevêque. Et là, on voit dernièrement des grandes personnalités d'un point de vue mondain qui viennent de décéder. Ah là, ils vont faire des funérailles nationales pour ces personnes-là. Est-ce que ces personnes-là le méritent? On peut juste dire d'un point de vue matériel, oui, mais d'un point de vue spirituel, c'est très discutable. Alors, il y a un verset dans le Srimad Bhagavatam que Prabhupada utilise, c'est dans le deuxième chant de Bhagavatam, où c'est dit, des hommes qui sont comparables aux chiens, aux porcs et aux chameaux vont glorifier d'autres, des leaders aveugles. Ça, Prabhupada utilise ce verset-là assez souvent dans ses, dont ici et là, dans ses livres. Puis là, il explique c'est pourquoi, comment ça se fait qu'on dit qu'ils sont des chiens, comment ça se fait qu'ils sont des porcs et comment ça se fait qu'ils sont des chameaux. Et là, il explique avec assez de détails, suffisamment, pour arriver à comprendre, ben effectivement, ils ont pas le physique de ces animaux-là, mais leur comportement témoigne qu'ils sont comme ça. Et c'est le Srimad Bhagavatam qui dit ça. Alors voilà. Alors, ce qu'on lit aujourd'hui, c'est fait partie d'une classe de Prabhupada. Et Prabhupada qui fait une classe justement sur des prières de la reine Kunti Devi, qui décrit justement une société qui vit dans l'opulence, pas les richesses, disons, argent, monétairement parlant, mais les richesses qui sont dues à la clémence de la nature matérielle, les richesses naturelles. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires?
Juste pour le monde vénère du monde, qui sont pas dans l'amour divin. C'est comme, il y en a un qui vient de mourir il n'y a pas longtemps, c'était un chanteur, je ne me rappelle plus son nom exactement, mais il vénérait le diable, il était habillé comme le diable, je sais pas son nom, mais il y a eu plus de reportages faits sur lui que quelqu'un qui fait du bien que dans la vie. Comme même le monde qui veut assassiner la majorité de la population sont respectés. C'est comme il y a un Bill Gates, là. Il fait rien de bon. Il donne l'impression qu'il fait du bien, mais il empoisonne le monde avec tout ce qu'il fait dans la vie. Mmh. Alors, c'est le côté diabolique et de ces temps-ci, c'est lui qui est mis sur plateau et vénéré. À place de ceux qui font du bien. On est dans un moment vraiment turbulent dans notre cette expérience de vie que Dieu nous donne à vivre. Là. C'est du karma qu'on doit, je pense, vivre à travers.
C'est l'âge de Kali, hein? Alors, tout est à l'envers dans l'âge de Kali et n'importe quelle stupidité peut arriver. Puis il n'y a pas de quoi s'en étonner vraiment, parce que plus ça va dans l'âge de Kali, plus c'est pire. Simplement. Alors, en tout cas, une niaiserie après l'autre, c'est l'âge de Kali. OK, alors on va continuer. On est à la page 154, la ligne 6. Oups, c'est ça.
155,
excusez-moi.
Pas de souci. La ligne 10, je crois. Enfin, la ligne 13, on reprend.
La ligne 13, c'est ça, la ligne 13.
J'étais arrêtée à la 11.
Okay. Alors, Ananda?
Oui, avec plaisir. Tout naturellement, il serait désirable pour nous d'être heureux même dans les villes et les villages en étant entourés de ces choses. Oshadi Viruda, puis les forêts Adri Nadi. Nadi signifie non sale. une eau très claire et des vagues qui ruissellent. J'ai vu de nombreuses rivières en Europe, à Paris, à Moscou et en Allemagne. Toutes très très sales, de par l'effet de la civilisation moderne. Très très sales. Vous ne pouvez pas vous y baigner, sans parler de boire l'eau. Elles sont tellement sales à cause des industries polluantes. Même dans notre New York, les baies et les mers sont également polluées. On y trouve toutes sortes de saletés. Combien de temps faudra-t-il pour que l'eau soit claire? On ne peut même pas y penser. Les rivières, du moins dans les villes, devraient être gardées très propres. Mais elles ne peuvent pas rester propres car il y a tellement d'activités polluantes, d'entreprises, de moulins et d'usines. Comme à Calcutta, aussi, il y a tellement de moulins et d'usines de juste au bord de la rivière. Tous les déchets de la nuit sont jetés dans le Gange. Et malgré tout, le Gange est si puissant qu'il reste clair. Des centaines et des milliers de personnes se baignent encore dans le Gange et affichent une très bonne santé. Ceux qui se baignent régulièrement dans le Gange. Dans les villes et les villages, il est impératif d'y avoir une rivière. En Inde, vous trouverez toutes les villes importantes de l'Inde. Elles sont au bord du Gange, au bord de la Yamuna, au bord de la Narmada, Krishna, Kaveri, comme ça, toutes les villes importantes. Et Chanakya Pandita disait, n'allez pas dans une ville ou un village où il n'y a pas de rivière et où vous n'avez pas d'amis et où il n'y a pas de temple. N'allez pas dans cette ville. S'il n'y a pas de rivière, ni d'amis et ni de temple, alors c'est une grande ville est une grande forêt. Par conséquent, c'est inadmissible. Ces choses devraient faire notre bonheur. Les villes et les villages ne devraient pas regorger de grands abattoirs de cinéma, de bordels, d'usines et toutes sortes d'immondices. Dans le verset qui nous occupe, il n'en est pas question. Ici, Kunti Devi dit « Ime jana padaha sridaha supak voshadi viruda » Elle n'a jamais dit « Ces villes sont florissantes parce qu'elles ont tant d'industries, d'abattoirs, de bordels, de cinémas, de clubs, de boîtes de nuit. » Pas comme ça. Il n'y avait rien de tel à l'époque. Ce sont des inventions modernes pour rendre le monde infernal. Autrement, les gens seraient « Si vous voulez être riche, alors vous pouvez vous enrichir. Comment faire ?» Vanadri Nadi Undan Vantaha, les mers, les rivières, les collines, vous pouvez obtenir des bijoux de valeur, des gemmes, des perles à partir de ces sources naturelles. Ainsi, la richesse de l'Inde, autrefois, dépendait de ces choses, c'est-à-dire l'or, l'argent, les bijoux, les perles, la soie, pas de l'industrie, et de la forêt, et des herbes, des grains alimentaires, tous des produits naturels. Donc, de la rivière, les saints dépendaient principalement des berges d'une rivière. N'importe où, ils se faisaient une hutte au bord de la rivière. C'est encore le cas. Une personne sainte, si elle veut rester dans un endroit isolé, alors elle choisit n'importe quel endroit au bord de la rivière et y construit une hutte. Vous trouverez encore dans de nombreux endroits, surtout sur les rives du Gange, Narmada, Godavari, Kaveri, pardon, de nombreuses personnes saintes, surtout sur les rives de Yamuna et du Gange. Si vous allez à Allahabad, vous trouverez qu'ils vivent très paisiblement dans une hutte au bord du Gange. Lorsque Narada Muni fit du chasseur un disciple, alors il l'emmena au bord du Gange et lui donna une plante tulasi. Il lui dit « Tu t'assis ici et tu chantes le mantra Hare Krishna, et la plante tulasi se trouve ici. Tu lui offres tes hommages. » Alors ce dernier était très inquiet, car il était chasseur. Il avait cessé son activité principale, celle de tuer. Il pensait donc « Mon Guru Maharaj ne peut pas me vouloir du mal. Il m'a fait cesser ce que je faisais. Il a brisé mes arcs et mes flèches. Et maintenant, il m'a fait m'asseoir ici et chanter Hare Krishna. » C'est alors qu'il demanda, « Et ma nourriture, monsieur ? Je vais m'asseoir ici où Narada Muni lui assura. Ne t'inquiète pas, je vais t'envoyer ta nourriture. Tu t'assis ici, tu chantes et je t'enverrai ta nourriture. » Il était donc un peu dubitatif. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle, dès qu'elle s'est répandue dans les endroits voisins, à savoir qu'un chasseur est devenu un Vaishnava, alors par curiosité, les gens venaient voir le chasseur Vaishnava. Quand on est un Vaishnava, on n'est plus un chasseur ou l'on n'appartient plus à aucune caste. Par la suite, les gens avaient l'habitude de dire le chasseur Vaishnava. De plus, la coutume veut, lorsqu'un grihastha va voir une personne sainte, il doit apporter un cadeau, peu importe si c'est modeste, au moins avoir une pomme de riz ou un dal, ou du dal, légumineuse, ou de lata, farine de blé, à présenter. Le principe est de donner quelque chose. Si quelqu'un vient au temple, il y a encore beaucoup de temples en Inde, les gens y viennent avec. Celui-ci qui n'a pas grand-chose, mais qui apporte une pomme d'ata et de riz ou de dal, c'est utile. Et dans le temple, il y a trois pots, c'est-à-dire un pour y mettre du dal, un pour y mettre de l'ata et un autre pour y mettre du riz. De cette façon, les pensionnaires du temple peuvent vivre sans sortir. Mais les gens ont perdu cette habitude, ils viennent les mains vides pour le darsana. Ils pensent « je ne te donnerai rien, mais vous êtes une personne sainte. Accordez-moi votre darsana et donnez-moi votre ashirvada pour que je jouisse ensuite de mes sens. C'est tout. » Je n'ai rien à vous donner, mais vous me donnez votre ashirvada. Vous me donnez la poussière de vos pieds, j'en prends avantage, vous mourrez de faim. Mais la coutume n'est pas comme ça. Donc le chasseur, il suivait l'instruction de son guru Maharaj, Narada Muni, en chantant Hare Krishna et en s'asseyant très paisiblement. Alors les gens venaient et ils étaient surpris. Et puisque tant de gens venaient, des tas de hatha, des tas de riz, des tas de légumineuses. Alors, un peu agité, il se disait « qu'est-ce que je vais faire avec tout ça ? Pourquoi en voit-il tant de choses ? Nous sommes simplement deux, mari et femme. Pourquoi en voit-il tout ça ?» Donc, en fait, pour un Vaishnava qui dépend de Krishna, il n'y a pas de manque. Il ne peut y en avoir. Yogakshemam vahami aham teshyam nitya yuktanam Bhagavad Gita 9.22. Si l'on dépend effectivement de Krishna, il n'est pas question de pénurie. Telle est l'instruction de Sukadeva Goswami, Kashmad Banjati Kavayodana Durma Dandan, Srimad Bhagavatam 2.2.5. Il dit aux personnes saintes d'être indépendantes. Il conseille donc, pourquoi êtes-vous inquiet pour la literie? Il y a de la belle herbe et vous avez des oreillers, vos mains, vos bras. Vous pouvez vous allonger ici. Et quelle est la nécessité de garder un pot d'eau? Parce qu'un sannyasi, même en abandonnant tout, garde un pot d'eau. Alors Sukadeva Goswami critique. À quoi sert de garder un pot d'eau? Vous avez vos pommes. Vous pouvez prendre l'eau de la rivière et boire. Shirani Kimchan Patinasanti et les vieux vêtements, une fois jetés, autrefois les grihastha, lors de différentes cérémonies, après avoir pris un bain, jetaient leurs vêtements, leurs, pour que les pauvres puissent les prendre et les utiliser. Et ils portaient de nouveaux vêtements par la suite. C'était le cas à chaque cérémonie religieuse. Durant notre enfance aussi, nous avons vu, dès qu'il y avait une nouvelle cérémonie au puja, il y avait de nouveaux vêtements. Même les pujas à la maison, il y en a pratiquement à chaque mois, par exemple. Lakshmi puja, Kartika puja, Barema Setara Uparaban. En fait, il y a 12 mois, mais on compte 13 festivals. Il était très difficile de déterminer quand il y aurait l'autre festival, à quel mois l'observer. Nous avons donc vu lors du Lakshmi Puja que tous portaient des vêtements neufs. Les enfants, au moins les enfants et la ménagère auront des vêtements neufs pour chaque cérémonie. Et quel était le prix du tissu? Très bon marché. Une roupie, quatre annas?
Ouais.
Une roupie, 6 annas par paire. Nous l'avons vu. Ensuite, le festival. Il n'y avait pas de pénurie. Pourquoi? Les gens étaient enclins à la religion. Même pour un mendiant, il y en avait assez. Le temple, tout était suffisant. C'est ce qu'on appelle Ime Dhyana Padaha Sridaha Sridha signifie opulent. Toutes les villes et les bourgs étaient opulents. Les villages opulents s'en manquent. Et ils dépendaient des arbres, des plantes, de cette rivière, de la montagne, de la mer. Ceux qui étaient, ils sont experts. Ils allaient sous la mer et ramassaient les perles, qui sont très précieuses. Et il y en a encore. Donc pour les hommes riches, les bijoux, la soie, la bonne nourriture, les beaux bâtiments. Et pour les pauvres aussi, même s'ils n'ont pas besoin de bijoux, ils n'ont pas faim. Tout était complet. Lecture. La prospérité humaine dépend des dons de la nature et non de gigantesques entreprises industrielles. Tel est le sens. Ces gigantesques entreprises industrielles, on les appelle Ugra Karma. Ugra Karma, tout comme de nos jours, on trouve des industries à New Delhi. Chaque ville a une zone industrielle où fleurissent de grandes, grandes industries. Quand on va de Vrindavan à New Delhi, la première grande industrie qu'on voit est celle des pneus Goodyear, une très grande usine. Alors les gens sont tentés d'y aller travailler. C'est comme si on leur disait, venez ici, vous aurez un bon salaire. Pourquoi travaillez-vous si dur dans les champs? Venez ici, vous aurez un bon salaire. Et ils y vont. Mais le résultat est qu'ils ne sont pas heureux. Et quand ils ne sont pas heureux, ils sont, je veux dire, incités à prendre du vin et de la viande. C'est le même phénomène dans le monde entier. À un moment donné, l'Inde n'avait pas de tout ça. Le mouvement de Gandhi voulait mettre fin à ce vin, à cette chair animale, de la même manière que nous l'interdisons. Mais à l'heure actuelle, le gouvernement va dans l'autre sens. Il encourage les gens. C'est très regrettable. Lecture. Les gigantesques entreprises industrielles sont les produits d'une civilisation impie. Une civilisation sans Dieu. Ils ne peuvent plus dépendre des dons naturels. Ils pensent qu'avec des entreprises industrielles, ils obtiendront plus d'argent et seront heureux. Et rester satisfait des céréales, des légumes et des dons naturels, c'est un concept primitif. Ils disent « c'est primitif ». Quand les hommes n'étaient pas civilisés, ils dépendaient de la nature. Mais quand ils sont avancés dans la civilisation, ils doivent découvrir les entreprises industrielles. Ainsi, au lieu de manger dans de la vaisselle en métal, les hommes civilisés devraient manger sur, comme dit-on, du plastique. C'est tout. Maintenant, des ustensiles en plastique, même pas en métal. Pourtant, selon la civilisation védique, les hindous ne seraient même pas censés toucher à ces ustensiles en porcelaine ou en argile, ni à ces ustensiles en plastique. Jamais ils. Ou les ustensiles en verre, ils ne les toucheraient jamais. Surtout dans le sud de l'Inde, ils sont très, très stricts. Un pauvre homme préfère manger sur une feuille de plantain. Et les hommes riches, ils mangent sur des ustensiles en argent. Ils n'aiment même pas, je veux dire, le laiton ou d'autres métaux de base.
Jai, merci beaucoup.
Hare Krishna.
Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Tu peux nous éclairer un petit peu sur cette histoire de vaisselle? Kadouk.
Oui, c'est une question, j'avoue.
Oui.
Bon, le plastique, je valide complètement parce qu'aujourd'hui, l'industrie du plastique, j'en ai parlé à un cours dernièrement, ça a généré des molécules et qui aujourd'hui, on en trouve partout et ça, c'est en train d'empoisonner toute l'humanité justement
Oui, et le plastique, ça, je sais pas combien d'années ça prend.
Des millions.
Pour justement arriver à désagréger ça et retourner ça dans la nature, c'est trop long.
On en trouve partout, hein.
Ouais.
Dans le corps de beaucoup d'animaux qui sont dans les fonds marins, c'est une catastrophe.
Ouais. Ça encore, c'est une autre catastrophe du Kali Yuga. Et le mal va son chemin. Les chrétiens ont cette conception du bien et du mal. L'âge de Kali, les dévots, nous, on dit pas c'est le mal. Oui, des fois, ça va être, Prabhupada même dit c'est le mal, mais c'est pas virer, revirer, encore revirer que c'est le mal, c'est le mal. C'est comment on va expliquer le mal ou le Kali Yuga? C'est très facile à définir. C'est simplement un manque de conscience de Dieu, un manque de conscience de Krishna. Mais même parmi des dévots qui ont des problèmes personnels, finalement, si tu fais de l'introspection du problème ou des problèmes, et encore plus si tu en discutes avec d'autres dévots, surtout des dévots aînés, la conclusion, ça va être, ah, c'est dû à un manque de conscience de Krishna. Et ça, c'est une expérience disons, j'ai déjà été président du Temple de Montréal et puis ça fait partie de la job. C'est que quelqu'un va venir te voir, puis va expliquer, oh, j'ai tel problème, X, Y, Z. Puis au bout du compte, la conclusion, c'est, ah, c'est un manque de conscience de Krishna. Ou si des dévots ne sont pas capables, par exemple, ce qui est très humain, de s'entendre un par rapport à un autre, c'est la même conclusion. Parce que les instructions de Srila Prabhupada, c'est que il a pas dit tu coopères avec juste ceux qui font ton affaire. Prabhupada n'a jamais dit ça. Alors, Prabhupada a dit votre amour pour moi sera démontré dans la mesure où vous allez coopérer les uns les autres. Alors, ça, c'est l'instruction de Prabhupada. Alors, que ça te fasse plaisir ou pas plaisir, c'est exactement comme dans l'armée. Tu peux ne pas aimer un tel, mais il faut que tu coopères parce que c'est l'enjeu est capital. Si le commandant dit c'est le temps de passer à l'assaut, toi tu restes derrière, puis il y en a 50 qui restent en arrière aussi, ça va être vraiment un problème. Alors même si c'est dangereux, si le commandant donne l'assaut, il veut donne l'ordre que c'est le temps de l'assaut, ben il faut que tu y ailles, c'est tout. C'est la discipline. Alors dans la conscience de Krishna, il y a beaucoup de place pour la discipline. 50% c'est de la discipline, pratiquement parlant, la conscience de Krishna.
C'est pour ça qu'on est tous des prabhus, parce qu'on est tous des comme des maîtres et des étudiants. On se respecte en disant Prabhu, enseigne-moi. Alors chacun veut dire reçoit par Dieu, veut dire par Krishna, veut dire la réaction de qu'est-ce qu'il y a besoin de connaître à travers les autres personnes. Je sais pas comment.
Oui, c'est un bon point. Disons, on nomme les dévots, d'autres dévots que soi-même, on va dire Prabhu. Prabhu veut dire maître. Alors, nous, on se dit, chacun se dit serviteur du Prabhu. Alors, mais Prabhupada, dans une classe, j'ai écouté Prabhupada, il dit, tout le monde veut être Prabhu, mais pas serviteur. Alors, moi, je suis Prabhu, et toi, tu me sers. C'est ce que Prabhupada dit dans sa classe. Mais ça marche pas comme ça non plus. C'est que tu respectes l'autre, tu le considères comme Prabhu. OK, je vais te servir. Mais lui aussi, il faut qu'il respecte le serviteur. Ça, c'est comment tu vas respecter le serviteur? Ça, c'est une bonne question. Alors, je suis Prabhu. Je sais, l'autre est en train de m'appeler Prabhu, là. Alors, est-ce que j'en suis fier?
Mais dans le fond, on est tous des Das, non? Notre nom en arrière, la finale, c'est toujours Das ou Dasi, au féminin. Là. Ça veut dire, on est serviteur. Le mot Das veut dire serviteur, c'est ça?
Exactement. Alors, mais le Prabhu, qui est en train de prendre le service qu'on lui offre, comment qu'il doit respecter les serviteurs? Le serviteur doit respecter le Prabhu. Mais le Prabhu, comment qu'il doit respecter le serviteur?
Mais le Prabhu, il est aussi serviteur?
Exactement. C'est que le Prabhu, il doit considérer que le serviteur est aussi Prabhu.
C'est ça.
Alors, le Seigneur Chaitanya dit, comment qu'il faut chanter Hare Krishna? Dans une humble mentalité, sans faux prestige, toujours prêt à offrir son respect à autrui, dans cet état d'esprit, on peut chanter continuellement le chant des saints noms. Alors, c'est dans cet esprit-là. Alors, il y a des relations entre dévots. Il y a trois types de relations entre dévots. Il y a un, des dévots qui sont, qui nous sont supérieurs, qui sont plus avancés que nous-mêmes. Deux, des dévots qui sont nos pères, même niveau. Et trois, des dévots qui sont moins avancés. Ben, c'est pas une raison, ça, de faire comme dans la vie matérielle, de chercher à intimider ou de, comment on peut dire, à impressionner ou profiter de certaines personnes. Non. Ce que les Écritures disent, c'est qu'il faut démontrer de la compassion. Démontrer de l'empathie pour des personnes qui sont moins avancées que soi. Ça veut dire que si toi, tu en as tellement reçu de la grâce de Krishna, pourquoi tu ne la donnes pas aux autres? C'est pas... Oui?
Il faut de l'humilité aussi pour pouvoir avoir...
Exactement. Alors, la mentalité de base, c'est l'humilité. Et l'humilité, c'est dit que c'est un signe de connaissance. Alors, si on est vraiment connaissant, on se doit d'être humble. Pourquoi? Parce qu'on est une toute petite parcelle de Krishna, infinitésimale, très, très petite. Alors, on n'est pas grand, on n'est pas gros, on n'est pas super intelligent comme Krishna. On n'est rien à côté de Krishna. Alors, si on veut faire plaisir à Krishna, on a intérêt à démontrer à Krishna dans quelle mesure on respecte les autres êtres vivants. Et ça, juste un moment, c'est un des signes d'avancement spirituel, de démontrer qu'on est capable de respecter autrui. Ça, c'est un signe de connaissance. Et le contraire, ben, c'est un signe d'ignorance et de, comment on peut dire, de grossièreté. OK. Question, commentaire?
Juste pour ajouter, Prabhu, sur ce point, l'humilité, c'est comme, quelqu'un m'avait dit ça, je trouvais ça intéressant, c'est comme deux verres qui sont égales. Si un se baisse pas, on peut pas recevoir le jus de la connaissance de l'autre. Alors, c'est par l'humilité que l'autre nous est motivé à nous apprendre. Si on se pense meilleur, tu peux rien apprendre parce que tu bloques. Tu dis ah oh, moi je sais, je connais tout.
Justement, ça c'est un des. Si on prend le verset de la Bhagavad Gita, chapitre 4, verset 34, la mentalité, disons, qui va de soi, c'est d'approcher un maître spirituel. Mais on peut pas approcher un maître spirituel si on se pense meilleur que le maître spirituel, ça donne absolument rien. Ça veut dire qu'on est vraiment, on a un gros problème d'ego et d'orgueil, là. Alors, un maître spirituel est approché en vue de s'enquérir de la vérité absolue. En d'autres mots, c'est une façon de reconnaître sa propre ignorance en termes de connaissance de la vérité absolue pour justement apprendre d'un maître spirituel. Virginie, tu voulais dire quelque chose tantôt? On t'entend pas, là?
Pardon, non, j'ai oublié parce que c'était dans l'élan de ce que tu disais. Mais non, tu as bien répondu à...
OK. Alors, une classe comme celle de Prabhupada que nous lisons. Sur le Prabhupada, nous a toujours cette capacité de nous ouvrir les yeux. Et on est conditionné par la société dans laquelle on vit. Et comme un exemple dont on a lu ici, c'est qu'on pense que le succès, c'est combien il y a d'usines, combien il y a d'emplois, quel est le salaire annuel moyen des travailleurs? Mais est-ce que ça, c'est vraiment le succès? Les gens savent pas, les gens n'ont pas vraiment de concept d'importance de la vie humaine, que c'est pour la réalisation spirituelle. Alors pour eux autres, si je mange bien, je dors bien, j'ai un toit, je me défends, ou le pays me défend, on est en voiture. Qui ne pense pas comme ça dans la société? C'est dans tous les pays. Dans tous les pays, c'est la même chose. Alors, ça prend un pur dévot, une âme réalisée qui nous dit, c'est pas par là qu'il faut s'en aller, c'est dans la réalisation spirituelle. Et comme on vient de lire, là, il y a beaucoup d'endroits en Inde où des gens vivent dans des huttes sur le bord des rivières. Ils se contentent de peu, mais si tu regardes qu'est-ce qu'ils font de leur journée, ils doivent être absorbés dans les écritures, ou à chanter des mantras, ou à aller dans les temples. Puis nous, occidentaux, disons, occidentaux bien nantis, on va en Inde, puis on va justement voir les temples. Puis voir justement le mode de vie très simple des gens en Inde. Et c'est aussi simple que ça, là. C'est des questions, des commentaires?
Bon, là, tous ceux qui vivent dans l'ignorance sont c'est ceux qui se gratifient les sens. Parce que quelqu'un qui sait que le bonheur, c'est dans la tête, c'est un état d'esprit, c'est par la connaissance divine qu'on se libère des souffrances que le monde matériel nous donne. Il n'y a pas de joie à long terme, c'est toutes des joies à petit terme, puis ça finit jamais, t'as toujours besoin d'un autre bebelle pour être heureux, je sais pas, dans ce côté-là. Mais une fois que t'as la connaissance divine, tu vois les choses différemment, rien ne change autour de nous, mais notre perception change. Alors on est libéré de nos tortures qu'on s'inflige nous-mêmes en donnant de l'importance aux choses extérieures. Si Krishna n'est pas dedans, c'est vraiment la souffrance va venir à un moment ou l'autre, parce qu'on n'a rien pour défendre l'énergie matérielle qui veut entrer en prenant de l'importance dans nous.
Exactement. Tu as tout à fait raison. Et en fait, il n'y a pas de bonheur pour qui que ce soit si Krishna n'est pas au centre. Si Dieu n'est pas au centre de la vie de l'individu, il n'y a pas de bonheur. Le Krishna est comme la racine de l'arbre. Si on arrose la racine, tout l'arbre est bénéficié. Mais s'il n'y a pas d'eau pour la racine, peu importe qu'est-ce qui est fait, l'arbre va souffrir de sécheresse. Alors, on est comme ça. Alors, comme c'est dit, lorsque quelqu'un, Prabhupada explique ça lorsqu'un dévot est initié, il reçoit la graine de la bhakti, ou la semence de la dévotion. Et là, il doit faire attention et protéger cette graine, la protéger de quoi? Ben, de faire des offenses. Qui sont des actions, des offenses qui sont pas recommandables dans les Écritures. Et la vie dévotionnelle, ça veut dire faire à chaque pas, c'est être conscient, est-ce que je vais faire une offense ou je ne vais pas faire d'offense en faisant la bonne chose. C'est dans ce sens-là, non? Il n'y a pas d'hypocrisie aussi dans la conscience de Krishna. J'écoutais une nouvelle d'une personne que j'ai connue au temple. Puis j'écoutais ça pas plus tard que avant-hier ou hier soir, là, en tout cas. Un dévot est venu chez nous. Puis on demande, ah, comment va telle personne? Puis là, ben, il me dit, ah, elle boit sa bière à la taverne, elle va boire une bière. My goodness, me dit, ça fait, je sais pas moi, 30 ans, 40 ans que je connais cette personne-là, puis elle boit encore de la bière. Aïe, aïe. c'est quoi l'affaire, là, avoir pratiqué la conscience de Krishna, puis t'es encore resté à cela. C'est spécial. En tout cas, j'étais sous le choc d'entendre ça. Une personne que je connaissais, disons, comme tout le monde au temple, là. Mais je trouve ça spécial, justement, d'entendre parler que tel dévot ou dévote, ne suivent pas les principes. Oui, ça peut arriver. Ça, on le sait que ça peut arriver. C'est pas n'importe quel dévot va dire, c'est pas évident. Mais ça fait quand même, je dirais, ça fait mal d'entendre parler comme ça. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui.
Est-ce que c'est une personne initiée?
À ce que je sache, non. Mais c'est une personne qui gravite autour du temple depuis des décennies.
Il a peut-être du mal avec certaines, avec la maîtrise d'essence, en fait, c'est ça, hein?
Ouais, ça ne peut pas être autre chose que ça.
Si peut-être il n'est pas initié, c'est parce que justement il sait qu'il a des faiblesses et que ces faiblesses-là ne peuvent pas aller avec une initiation
Ouais,
aussi.
c'est un bon point que tu fais là. Alors, c'est pour l'initiation, c'est la troisième étape dans le processus du Bhakti Yoga. La première étape, c'est Shraddha. Ça veut dire la foi. La deuxième étape, c'est appelé Sadhu Sangha. C'est de l'association avec les dévots. Ensuite, t'as l'initiation d'un maître spirituel, puis ensuite, après ça, c'est Anartha Nivritti, justement, se purifier de toutes les mauvaises habitudes, abandonner toutes les mauvaises habitudes. Ça, c'est après l'initiation. Mais évidemment, si quelqu'un considère sérieusement d'arriver à un point de demander l'initiation à un maître spirituel, c'est pas après l'initiation, c'est avant l'initiation qu'il doit, disons,
Abandonner.
abandonner les mauvaises choses. Et le maître spirituel, quand il initie quelqu'un, il demande, c'est quoi les quatre principes régulateurs? Alors là, la personne va réciter, oui, les quatre principes régulateurs. Et puis, l'autre chose qui vient après, c'est chanter 16 tours par jour. Le nombre prescrit de chants du Mahamantra tous les jours. Et ça, c'est juste la base. Le reste, c'est écouter, chanter. Comme on fait là. On écoute et on chante. Le Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, et purifier sa conscience en écoutant les propos qui ont trait à Krishna, Krishna Katha. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Je veux dire, alors les quatre principes, c'est la clé pour rentrer dans cet état de conscience et les mantras, c'est la lumière. Donc, une fois
Mantra
qu'on est
quoi?
rentré dans la chambre, hein, comment?
Oui, vas-y, c'est la lumière, tu dis?
Ben, c'est la lumière, une fois, la clé pour ouvrir cette dimension de conscience, c'est les principes pour purifier notre état d'être, notre véhicule qui est, disons, celui qui voit tout, puis analyse tout. Si on a des impuretés, on peut pas les analyser selon la dimension spirituelle. Puis une fois qu'on est dans cette dimension spirituelle-là, pour voir clair, c'est les mantras qui enlèvent la poussière. Ça veut dire qu'on voit mieux, hein, ça éclaire mieux.
Ouais, t'as tout à fait raison. C'est en plein ça. Alors, ça peut prendre du temps pour que quelqu'un se résigne à suivre les quatre principes régulateurs, mais c'est par là que s'en va la conscience de Krishna. C'est par ce chemin-là que ça avance ou ça progresse. Il faut justement arriver à un point où les quatre principes régulateurs, ça permet quoi? Qu'est-ce que ça permet de réaliser?
La discipline un peu.
Il y a deux choses.
Purification.
Ça, c'est le côté positif. Alors, si on parle de purification, c'est quoi l'envers?
Être sale. Impur.
Alors, impur, c'est comment qu'on est impur?
On enlève les impuretés.
Ouais, mais les impuretés, c'est les activités pécheresses.
Les activités pécheresses, oui.
Alors, les quatre principes, ça aide quelqu'un à se tenir propre, à l'écart des activités pécheresses. Alors, quelqu'un qui veut être conscient de Krishna, mais il y a de la misère avec l'intoxication, c'est un problème, là. Et que faut-il dire des trois autres, là, principes? Alors, suivre les quatre principes, c'est pour arriver à un point où la personne est affranchie des activités pécheresses. Elle le sait, elle le comprend, elle en comprend l'importance. Puis après, elle a le chemin ouvert pour progresser dans la conscience de Krishna. Sinon, c'est un boulet, c'est un obstacle. Et comme on dit en québécois, c'est pas un cadeau. Et comme Prabhupada explique, adopter des bonnes habitudes, c'est facile. Et adopter des mauvaises habitudes, c'est difficile à s'en débarrasser. Alors, c'est un est l'antithèse de l'autre. Alors, vaut mieux aller adopter les bonnes habitudes, puis en même temps, on se débarrasse des mauvaises habitudes. Mais si on a le malheur de rester accroché à des mauvaises habitudes, ben c'est difficile de s'en débarrasser. C'est comme être puni à son propre jeu. Mais Krishna est pas dupe. Alors, si on veut plaire à Krishna, ben, faut abandonner ou rejeter ce qui n'est pas favorable au service de dévotion. Et le contraire, accepter ce qui est favorable au service de dévotion. Alright. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires?
Encore un autre. Là, dans le fond, vous dites, qu'est-ce que on apprend avec tous les enseignements, c'est de connecter avec notre vraie nature, qui est une nature spirituelle. Tous les abandons dans les quatre principes, c'est pour pas gratifier l'essence du corps. Parce que toutes ces choses-là, que la non-intoxication, le gambling, sexe illicite, la viande, tout ça, c'est toutes des choses pour le corps. Alors, il faut purifier, je pense, c'est ça le but, c'est de purifier notre véhicule, qui est le corps, pour pouvoir capter ces fréquences. Si on se tient avec des bandits, avec le temps, OK, on n'est pas un méchant bandit, mais on est quand même un bandit. Notre face, notre façon d'être, c'est bandit, ça veut dire... On a notre corps devient la fréquence dans laquelle on se tient. Mais c'est pour ça, en se purifiant, la fréquence de notre corps change. Je veux dire, elle devient plus sensible dans l'amour. Parce que Krishna, c'est l'amour. Alors, on devient la fréquence amour. On voit tout sur la forme divine, c'est tout amour. Puis avec le mantra, c'est comme on devient l'amour. Je sais pas comment... On est dans une fréquence qu'on ne juge pas, on aime tout. À place de critiquer, on contemple. Alors tout notre corps entier devient dans la fréquence divine. C'est puis les mantras, c'est ça qui nous garde dedans.
Mm-hmm.
Les mantras, à mon avis, là, c'est les choses les plus importantes pour rester dans cette conscience. Sinon, c'est facile à nous faire lourd, comment dire, attirer dans le monde des plaisirs sensoriels. Si on oublie notre vraie nature, qu'on est des êtres spirituels et non corporels, à place de nous gratifier, veut dire tous les plaisirs pour notre corps, oh, manger que c'est bon, oh, on va voir une vue, un film, oh, c'est beau, tout ça. Alors c'est toujours pour le corps, mais l'âme n'a pas besoin de ça du tout. Elle a besoin de se connecter avec sa vraie nature divine, qui est dans le sens, c'est qu'est-ce qu'on est. Alors le mantra nous tient, c'est la corde qui nous tient toujours connectés, la plug qui nous tient connectés avec Krishna.
Ouais.
C'est la base, à mon avis, là, c'est la base vraiment qui va nous sauver de cette idée qu'on se prend pour des corps matériels.
Ouais. Et ajoutons à ça la deuxième corde, disons, si on peut dire la double corde, c'est l'association avec les dévots. L'association avec les dévots, ça aussi, c'est, comment on peut dire, c'est primordial.
Oui.
Qu'on a besoin de l'association avec les dévots. L'association des dévots, c'est notre vie. Parce que c'est avec les dévots qu'on peut écouter et chanter au sujet de Krishna. Qu'on peut vivre notre conscience de Krishna, c'est avec des dévots. Au niveau spirituel. Autrement, c'est le désert, là. C'est le Sahara. Ça va être longtemps et sec, pas mal. Alors, il faut, l'association des dévots est très importante. Et puis, on en a un petit échantillon quand on fait des cours de Ishopanishad.
Ouais, c'est très dur, Prabhu. Sans dévots, là, tu dois te battre un peu plus avec toi-même. Ça, c'est une chose qui ça l'aide parce que le dévot va toujours te parler, va dire un mot, ah Krishna, et te remettre dedans. Alors, il est toujours là pour te mettre la pendule à l'heure.
Mm-hmm.
Puis tu fais la même chose pour lui aussi. Alors, c'est comme on voit la balle. Alors, on reste toujours dans le même jeu.
Ouais, ouais. Alors voilà, c'est le cours tire à sa fin. Est-ce que d'autres questions ou commentaires? Alors c'est ça, juste un petit mot. Je suis en train d'écrire sur le mantra 3 de Upadeshamrita. C'est à peu près à moitié chemin. C'est long, Upadeshamrita, c'est... Donc, chaque cahier demande plus de, comment on peut dire, il y a plus de volume à traiter. Mais c'est intéressant. C'est très intéressant. Ça va, si on sait chercher des passages de Prabhupada qui corroborent les textes, c'est vraiment intéressant. Alors, on s'entend au mois de septembre, le 3 septembre, on va commencer cette étude de Upadeshamrita. Alors, merci beaucoup.
Merci à toi, Prabhu.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Tout le monde dans deux semaines. Hare Krishna. Hare Krishna.
Tout le monde dans deux semaines. Hare Krishna.
Hare Krishna. Hare Krishna.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à tous.
Prenez soin de vous.
Hare Krishna.
Haribol, Jai.
Jai.
Haribol, stop sharing. Voilà, c'est où ça? Ah, c'est ici. Voilà.